Alors ce matin, on arrive à la dernière prédication de notre série dans la lettre aux Colossiens. Oh là là, décidément, aux Colossiens. Alors je ne sais pas vous, mais j'ai eu beaucoup de joie à parcourir cette petite lettre où Dieu nous a rappelé cette vérité essentielle, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Sa personne, son œuvre sont suffisantes et cela impacte l'ensemble, et cela est appelé à impacter l'ensemble de notre vie avec le Seigneur. Ce matin, exceptionnellement, j'ai pas de PowerPoint, puisque le texte est suffisamment clair pour le suivre. Et j'espère que, comme moi, vous avez été encouragé par cette lettre. D'ailleurs, dimanche prochain, on a un culte de partage, donc ce sera une belle occasion, si vous souhaitez dire ce que le Seigneur vous a appris au travers de cette série, notamment, mais pas que. Voilà, vous avez le privilège de partager. Donc, dimanche prochain, on aura un culte de partage. Alors, ce matin, on arrive à la conclusion de cette lettre. Et à première vue, ouais, ça peut être un peu décevant. Paul ne développe pas d'aussi grands enseignements. On a une simple liste de salutations. Et c'est peut-être le type de passage qui ne nous attire pas spécifiquement notre attention. Mais on va découvrir que ce passage aussi a quelque chose à nous dire et à nous encourager. Alors je vous invite tout de suite à rentrer dans Colossiens 4, à partir du verset 7 jusqu'à la fin. Colossiens 4, donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à cette église, Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue aussi, ainsi pardon que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis, les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Epaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque ces lettres aura été lues chez vous, faites en sorte qu'elles soient aussi lues dans les églises des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Je salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. C'est la parole de Dieu. En ces derniers jours, j'imagine qu'une partie d'entre vous suivait la Coupe du Monde de foot. Alors, qu'est-ce qui fait gagner une équipe? Alors, c'est pas simplement le talent ou les stars. Non, ce qui fait la différence, c'est que chacun joue son rôle. Les attaquants attaquent, les défenseurs défendent. Chacun mettant sa qualité, ses aptitudes au service de l'équipe. Imaginez un défenseur qui d'un coup décide de jouer avant-centre, ou le gardien qui quitte sa cage pour aller marquer un but. L'équipe ne tiendrait pas ses 90 minutes de match, bien sûr que non. Chacun est appelé à s'occuper de son mètre carré. Il en est même deux dans l'Église. Dieu n'attend pas de nous que nous fassions tout, ne prenons pas ce culte en exemple, ni que nous soyons tous identiques. Il nous demande d'être fidèles à la responsabilité qu'il nous confie, prendre soin de son mètre carré, je dirais. Peu importe que cette mission soit visible ou discrète. Et lorsque chacun occupe la place que Dieu lui donne, l'Église grandit, l'Église brille. L'œuvre de Dieu avance et Christ est glorifié. J'en reviens maintenant à nos versets ce matin. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prêcher sur ces versets ? Après tout, qu'est-ce qu'on y trouve ? Une succession de prénoms, de noms. Alors c'est peut-être des idées de prénoms de garçons, hein, pour les prochains garçons de l'Église. On a des salutations qui sont adressées par des personnes qu'on ne connaît pas, dont la plupart on n'en sait pas grand-chose. Pourtant, cette conclusion est dans nos Bibles. Ce n'est pas une simple carte postale de Paul, c'est la parole de Dieu. Et on en est convaincu. Et dans sa souveraineté, Dieu a voulu que cette lettre et cette conclusion nous parviennent. Même cette conclusion sous la plume de Paul est inspirée et a quelque chose à nous dire. Depuis le début de cette lettre, Paul nous a expliqué la suffisance de Christ pour notre vie et pour la vie de l'Église. Et cette conclusion fait pleinement partie aussi de cet enseignement de la suffisance de l'œuvre de Christ dans la vie des uns et des autres. J'aime d'ailleurs la diversité de la parole de Dieu qui parle à la fois dans la loi, on connaît tous les 10 commandements, elle prend la forme de chants, les psaumes, de prophéties, on a les récits, par exemple les évangiles, on a des lettres comme celle de Colossiens. Avec cette liste de personnes que Dieu a utilisées pendant les premières années de la vie de l'Église. Avec des responsabilités différentes, des parcours qui sont différents, mais chacun a occupé fidèlement son mètre carré. Et ça rappelle déjà quelque chose, Paul n'a pas été seul comme évangéliste ou comme un homme qui a annoncé la bonne nouvelle dans cette région, autour de la Méditerranée, de l'Europe. Il y avait toute une équipe, des collaborateurs. Alors je pourrais déjà nous laisser comme première application cette première piste, chaque chrétien est utile. Chaque chrétien a un rôle, a une mission à jouer dans l'Église, dans la vie de l'Église. Et c'est ensemble que l'on remplit cette mission d'être les témoins de Christ. Mais ne tournons pas la page trop vite. Avouons-le, quand on lit la Bible et quand on a ce type de liste de noms, bon, on accélère un peu. Bon, il y a peut-être quelques formules qui nous font du bien. Mais pourtant, si Dieu a gardé cette liste, c'est qu'il veut encore aussi nous parler aujourd'hui. Et c'est ma conviction. Alors je vous propose, le premier point, c'est tout simple, je vous propose de regarder cette équipe, cette team qui est au service de l'Évangile. Vous avez probablement entendu hein, la qualité des personnes qui sont mentionnées ici. On sent véritablement un esprit d'équipe. C'est pas le top-down, hein, y a Paul et les autres. Non, absolument pas. On voit que c'est des collaborateurs précieux. Il y a des profils différents, il y a des missions qui sont différentes et qui sont tous engagés au service du même évangile. Qui sont-ils ? Je crois que si Paul avait fait une photo, il nous aurait sans doute envoyé une photo de ces personnes avec 8 portraits, 8 personnes qui se joignent à ces salutations pour l'Église et des hommes très différents, mais chacun indispensable. Alors faisons leur connaissance. Vous allez voir que sept vont particulièrement nous encourager et un huitième va nous servir un peu d'avertissement. Alors commençons par le premier hein, qui est nommé Tychique. Je l'appellerai le facteur consolateur. Regardez comment Paul parle de lui, verset 7. Il est notre frère bien-aimé. Un serviteur fidèle, mon compagnon de service dans le Seigneur. Waouh ! Vous imaginez quelqu'un qui écrit cela de vous ? Tychique est un homme intègre qui a fait ses preuves. On découvre cet homme à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament et notamment dans le livre des Actes et on voit déjà qu'il accompagne Paul lorsqu'il s'agit de transporter une importante collecte financière qui est destinée à l'église de Jérusalem. À l'époque, voyager demandait du courage, Paul lui fait confiance. Et cette fois encore, Paul lui confie une mission capitale. Sans Tychique, nous aurions probablement pas cette lettre, ni celle d'Éphésiens d'ailleurs. C'est lui qui transporte les lettres. À l'époque, il n'y avait pas de mail, hein, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Snapchat, mais c'est simplement un homme qui marche, et là, près de 1800 kilomètres entre Rome et Colosse. Il traverse la mer, il affronte les dangers du voyage pour remettre cette lettre en main propre à l'Église. Entre Rome et Colosse, hein, Google Maps nous dit Il y a près de 290 heures de marche. Bon, alors après, je pense que ça a pris plus que cela, mais imaginez, bonjour, je viens vous lire une lettre de l'apôtre Paul depuis Rome. Waouh. Mais Tychique n'est pas juste un facteur. Paul le dit, il lui donne le soin d'encourager l'Église, de lui donner des nouvelles, de le consoler. Et quand on lit le reste du Nouveau Testament, on le retrouve régulièrement avec ce type de responsabilité d'être un responsable, d'un enseignant. Par exemple, lorsque vous lisez Tite ou 2 Timothée, vous allez apprendre que Tychique, c'est celui qui va prendre le relais pastoral en Crète. Il va remplacer Tite. Plus tard, Paul, alors qu'il est de nouveau en prison, va l'envoyer pour une deuxième fois à l'église d'Éphèse. Partout où Paul a besoin de quelqu'un de fiable, il envoie Tychique. On peut compter sur lui. Tychique a été trimballé, on pourrait dire, aux quatre coins de l'Europe et de l'Asie, de gauche à droite, pour authentifier l'évangile et le message que Paul notamment portait. C'est un frère bien-aimé, un compagnon de service. Alors, compagnon de service, ça fait un peu léger, mais littéralement, c'est co-esclave de Jésus-Christ. C'est mon collègue. Alors là, j'ai pensé à mon collègue Jérémy, que je connais depuis l'IBG, donc ça fait plus d'une dizaine d'années depuis l'Institut biblique. Ça fait 10 ans qu'on sert ensemble pour coordonner les bénévoles pour différents séminaires et congrès. On a connu les joies, les difficultés, les nuits courtes, les défis, les problèmes à résoudre. Et à votre avis, tout cela crée quoi? Des liens. Et aujourd'hui, on prend 1 à 2 fois par mois le temps d'échanger, de prier et de porter nos ministères respectifs. Servir ensemble, ça soude. Et Paul et Tychique ont vécu cela pendant des années. Alors, une application. Laissez, moi, vous encourager à vous entourer, à servir le Seigneur ensemble, en équipe. Et vous allez créer des liens et vont naître de belles amitiés. C'est ainsi que vous allez vous faire des compagnons d'œuvre, des serviteurs de Christ. Ça va pas juste, c'est pas juste des relations de collègues, mais des relations d'amitié. Parce que servir Christ ensemble, ça crée des liens. On lutte ensemble. Mais Tychique, vous l'avez vu, il est un facteur consolateur. Son rôle est de rassurer les Colossiens. Paul est en prison. Personne n'envie sa situation. Mais Tychique a vu une chose. Paul ne s'apitoie pas sur lui-même. Même privé de liberté, Paul continue à servir, Paul continue d'encourager, Paul continue d'annoncer l'évangile, Paul continue d'écrire et d'exhorter l'église. Alors oui, Tychique pourra dire à l'église, ne vous inquiétez pas, Paul va bien, il continue fidèlement son ministère. Quel témoignage! Un homme privé de liberté, mais dont la joie, la paix, le zèle pour l'évangile demeure intact. Et je pense que d'avoir ce témoignage devait encourager l'église. Mais vous l'avez remarqué, Tychique n'est pas seul, et j'arrive au deuxième personnage, Onésime, verset 9, l'esclave devenu frère. Son histoire, elle est touchante, elle est bouleversante. Onésime, il est originaire de cette église de Colosse. Onésime est un esclave qui s'est enfui après avoir volé son maître, Philémon. On ne sait pas comment il a rencontré Paul à Rome, mais une chose est certaine, sa vie a été bouleversée. Il s'est converti à Christ et il devient un proche collaborateur de Paul. Mais Paul maintenant le renvoie à Colosse, chez son ancien maître. Et il ne le renvoie pas les mains vides, il lui confie une lettre, celle de Colossiens avec Tychique, mais aussi la lettre au Philémon, que vous avez dans vos carnets aussi. Quelle situation, mes amis! Philémon, son maître, qui est dans cette église de Colosse, va devoir mettre en pratique ce que l'Évangile nous demande de vivre, d'accueillir Onésime comme un frère. On a lu, il y a pas si longtemps, dans Colossiens 3, cette situation de ne plus nous accueillir comme de simples esclaves ou simples maîtres, que les relations, lorsqu'on a rencontré Christ, elles changent et c'est révolutionnaire. Imaginez-vous cette scène, je ne sais pas ce qu'Onésime avait fait lorsqu'il a quitté son maître, mais Onésime doit l'accueillir comme un frère, peut-être le prendre dans ses bras, etc. Parce que Paul parle d'Onésime comme d'un homme bien-aimé et digne de confiance. C'est vraiment révolutionnaire parce qu'un esclave n'était presque rien à l'époque. Mais en Christ, c'est ce qu'on avait vu, notre identité, elle est nouvelle. Écoutez ce que Paul écrit à Philémon. je t'adresse cette requête à propos de mon enfant. Onésime, autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il t'est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie. Accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. Waouh ! Quel changement ! Celui qui était rejeté, celui qui était esclave, devient un frère bien-aimé, un collaborateur utile et un serviteur de l'Évangile. Mes amis, l'Évangile transforme les vies et transforme les relations. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'accompagner quelqu'un dans son cheminement avec le Seigneur. On le sait, c'est toujours l'œuvre de Dieu, un miracle. Mais voir une personne être transformée, grandir dans la foi, l'encourager, prier avec elle, ça crée aussi des liens forts. Et c'est ce que Paul vit avec Onésime. Il ne dit pas simplement « je t'aime », il lui dit aussi « tu es utile maintenant à l'œuvre de Dieu et je t'envoie à Colosse, tu vas être utile là-bas. » Wow. Autre piste d'application. Je le dis régulièrement, mais l'Église, elle est composée de personnes avec des parcours très différents. Il y a des personnes qui ont parfois un passé lourd, des blessures profondes, des échecs, un peu comme Onésime peut-être. Mais en Christ, on trouve une nouvelle famille, on a une place dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est cela la beauté de l'Église et la beauté de l'Évangile. Nous ne sommes pas réunis parce qu'on a le même âge, ou les mêmes centres d'intérêt, ou le même parcours. Nous sommes réunis parce que Christ est suffisant pour transformer nos vies et donner une nouvelle orientation. Alors ce matin, j'aimerais nous encourager, pour les temps qui sont devant nous, à faire connaissance, à aller vers ceux qui sont différents de nous. Rappel, hein, le fil rouge de cette année, c'était de marcher avec les autres. Donc c'est l'idée de marcher avec celui qui ne réfléchit pas comme moi, celui qui n'a pas les mêmes hobbies que moi, qui n'a pas le même âge, peut-être pas le même statut familial, les mêmes passions. Prenons le temps de découvrir ces bien-aimés que Dieu place à nos côtés. Troisième personne, hein, vient ensuite Aristarque, verset 10. Paul le qualifie de compagnon de captivité. Et d'ailleurs, quand on parcourt le Nouveau Testament, plusieurs fois il est question d'Aristarque, et on le retrouve plusieurs fois et souvent en prison. C'est le récidiviste des arrestations. C'est celui qui est dans les coups durs. Je crois que Aristarque a vite compris qu'être témoin de Christ pouvait coûter cher. Suivre Christ et parfois accepter d'en payer le prix. Et je me dis, quelle consolation pour Paul de ne pas traverser cette épreuve de l'emprisonnement seul. Alors je ne sais pas s'ils étaient dans le même cachot, mais imaginez quelqu'un qui partage votre condition, vos chaînes, votre combat, vos souffrances. Je me suis fait cette réflexion, il est bon, entre guillemets, d'être persécuté à plusieurs. Bien sûr, personne ne souhaite la persécution ou les épreuves. Mais lorsqu'elle arrive, quelle force, quel encouragement de savoir qu'on n'est pas tout seul. On s'encourage, on se porte, on se serre les coudes, on tient ferme, on avance ensemble. Cela nous rappelle une réalité que nous sommes engagés dans un combat, le combat de la foi. Dans un monde qui ne porte pas Jésus-Christ dans son cœur. Voilà pourquoi l'Église est une grâce. Alors développons de vraies amitiés. Encore. Les personnes assises à côté de vous ne sont pas simplement des voisins de chaise pendant une heure, mais ce sont peut-être les combats, les compagnons de combat de demain que Dieu veut vous donner. Alors je sais que dans une église de 50, de 100 ou de plus de personnes, on n'a pas toujours la possibilité d'encourager tout le monde, d'être un soutien pour tout le monde. Mais chacun de nous a besoin d'avoir un ou deux frères ou sœurs avec qui on entretient des liens privilégiés. Avec les anciens, on a à cœur de vous encourager cet été à réfléchir, peut-être à créer des binômes, peut-être à rejoindre de façon intentionnelle un groupe de maison ou le groupe entre femmes, que sais-je. On a à cœur, et on prie pour cela avec Mathieu aussi, de voir nos groupes de maison doubler, en taille mais aussi en nombre, parce que c'est là qu'on est appelé à se serrer les coudes et à s'encourager, à mener le combat de la foi ensemble. Aristarque. Puis on retrouve au verset 10, Marc. Là, c'est le serviteur relevé, je dirais. Paul précise qu'il est le cousin de Barnabas, Quel gage de crédibilité quand on sait que Barnabas est l'encourageur. Et il demande aux Colossiens de lui réserver à Marc, un bon accueil. Pourquoi cette double authentification? Parce que le parcours de Marc, mes amis, il est assez émouvant. Alors pour faire court, on le sait, Marc a été du premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il a fait partie de l'équipe, mais on sait qu'il a abandonné en cours de route. On ne sait pas exactement pourquoi. C'était un jeune homme, on ne sait pas pourquoi. Mais lorsque Barnabas, d'ailleurs, pour un deuxième voyage, a voulu lui donner une seconde chance, Paul a dit non. Et le désaccord était si profond que Paul et Barnabas se sont séparés. On sait cet épisode, hein, peut-être, pour vous. Et pendant un temps, il valait mieux pas parler de Marc à Paul. Et pourtant, quelques années plus tard, on le voit, on le lit, la situation a changé. Paul écrit aux Colossiens, accueillez-le. Et puis, trois, cinq ans plus tard, il va demander même à Timothée, on voit ça dans 2 Timothée 11, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Vous voyez l'évolution? Celui qui avait abandonné devient un collaborateur précieux. Et la tradition de l'Église nous dit même que Marc fut probablement l'auteur de l'évangile de Marc. Est-ce que c'est pas une histoire qui nous rassure? Oui, il peut arriver que des chrétiens connaissent des désaccords. Mais ces désaccords ne doivent jamais avoir le dernier mot. Parce que l'évangile ouvre toujours, mes amis, la bonne nouvelle ouvre toujours un chemin de réconciliation. L'Église, on le sait, je l'ai déjà dit plusieurs fois devant vous, l'Église n'est pas une communauté de personnes parfaites, mais c'est une communauté de pécheurs réconciliés, des personnes qui sont appelées à apprendre à se pardonner, des personnes qui, malgré leur échec, se relèvent et redeviennent utiles entre les mains de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous portaient des relations et des blessures, pardon, relationnelles. Ou peut-être pensez-vous à un échec dans votre vie, que Dieu ne pourra plus se servir de vous. Marc nous rappelle le contraire. Avec Dieu, un échec, une situation compliquée, c'est pas forcément la fin de l'histoire. L'Église, mes amis, est appelée à être composée de personnes que Christ relève, que Christ a pardonné, que Christ rend utile pour son œuvre. Voilà ce que nous apprend Marc. Verset 11, je poursuis, hein, je vais un peu vite, mais au verset 11, on a Justus, voilà, il est aussi appelé Jésus. Je l'appellerai l'encourageur discret. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où on parle de lui. On ne sait rien de lui, sinon une seule chose. Paul dit que lui, qu'avec deux autres chrétiens d'origine juive, il a été d'un grand réconfort. Imaginez, Justus n'a probablement pas prêché devant des foules, on ne le sait pas. Il n'a pas écrit de livres, en tout cas pas de livres qui nous sont restés, mais sa simple présence a fait du bien à Paul. Quel ministère ! Sa présence a encouragé, a consolé l'apôtre Paul. Et il le dit. Cela nous rappelle qu'on peut être un encouragement pour un frère ou une sœur sans même s'en rendre compte. Par notre fidélité, par notre manière de servir, par notre manière de parler, par notre amour pour les autres, par notre simple présence. Ne minimisons pas l'impact que nous pouvons avoir dans la vie des uns et des autres. On a besoin d'être entouré de gens qui nous encouragent. Je me rappellerai toujours, il y a pas si longtemps, un jeune que j'ai côtoyé au groupe de jeunes il y a 20 ans en arrière, voire plus, m'a dit « Josué, tu m'as encouragé parce que tu m'as emmené en voiture pour aller au bowling ensemble au groupe de jeunes. » Encourager. Et j'aimerais vous laisser cette prière. Seigneur, qui je pourrais encourager ? Simplement, je vous l'ai souligné dans le groupe WhatsApp cette semaine, hein, un message, prends des nouvelles, je pense à toi, je prie pour toi, comment ça va ? C'est peu de choses, mais ces petits encouragements peuvent être un signe de réconfort au moment que le Seigneur peut-être utilisera. Le royaume de Dieu, mes amis, le ministère de l'Évangile ne repose pas que sur des personnes visibles. Mais il avance grâce à une multitude de justus qui sont fidèles dans leur mètre carré. Des personnes qui servent peut-être discrètement. Des petites mains qu'on ne remarque peut-être plus, mais que Dieu lui voit parfaitement. On en arrive à verset 12 à Épaphras. Et là, c'est le père spirituel de cette église. C'est lui qui leur a annoncé la bonne nouvelle. On l'a vu au début, chapitre 1, verset 7, par exemple. Mais au moment où Paul écrit cette lettre, Épaphras n'est pas avec cette église. Il n'est plus à Colosse. Il est auprès de Paul, 1800 kilomètres. Et on pourrait se dire, mais comment prend-il soin encore de cette église à distance? Comment c'est possible? Mais déjà, on voit que c'est Paul qui a informé, non, c'est Épaphras, pardon, qui a informé Paul de la situation de cette église. Il leur a parlé de leur joie, de leur défi, et c'est ce qui a conduit à ce que Paul écrive cette lettre. Mais regardez verset 12, on apprend qu'Épaphras, très loin de cette église, combat toujours pour eux dans la prière. Même loin d'eux, cette église de Colosse n'est pas loin de son cœur. Quel beau portrait d'un berger! Son désir n'est pas d'abord que l'église de Colosse grandisse en nombre, mais son désir, c'est qu'elle tienne ferme, qu'elle grandisse en maturité, qu'elle demeure dans toute la volonté de Dieu. Voilà le cœur d'un pasteur pour son église, alors qu'il est à je ne sais pas combien d'heures de marche. Un homme qui aime ses frères et sœurs et qui les porte devant le Seigneur. Permettez-moi une petite parenthèse, parce que plus impressionnant encore, Épaphras, il est un pasteur aussi un peu itinérant, parce qu'il est pasteur de 3 communautés. On découvre qu'Épaphras ne veille pas simplement sur Colosse, mais il est aussi sur les églises de Laodicée et d'Hierapolis. Et on le sait que quand on regarde la géographie, c'est 3 églises qui sont dans 20 kilomètres de distance, les unes des autres. Alors on voit déjà que c'est des communautés qui entretiennent des liens entre elles, on en reparlera tout à l'heure. Paul demande même que cette lettre circule entre ces églises. On voit qu'elle fonctionne en réseau. C'est très moderne, hein, maintenant. Premier siècle, en réseau. Épaphras, oui, il est le pasteur de ces 3 communautés. Et il les porte devant le Seigneur. Je referme la parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. J'en tire une première application, déjà pour nous, les responsables. On voit que la prière n'est pas un supplément de ministère, elle est l'un des fondements. Il est tellement facile, et je le prends pour moi, de courir dans tous les sens, de préparer des réunions, de répondre aux besoins, d'organiser, d'en oublier de prier. Épaphras nous rappelle ici que l'un des plus grands combats de l'évangile d'un berger se mène à genoux. Alors ça, c'est les applications pour les responsables, mais il y a cette application pour chacun de vous. Priez pour vos responsables. Priez pour que nous ayons ce même amour qu'Épaphras pour cette église. Le même zèle, le même esprit de prière. Alors c'est vrai, on a des fardeaux, on a des combats en lien avec notre responsabilité, on a le souci des autres, on a le désir de voir chacun progresser, on a le désir de voir propager l'évangile, comme on l'a vu dimanche dernier. Et pour cela, on a besoin de porter cela dans la prière les uns avec les autres. Et enfin, je termine cette galerie de portraits. Voici Luc, le médecin fidèle, le numéro 7 sur la photo de groupe. Paul le décrit simplement comme le médecin bien-aimé. Médecin fidèle au poste, la garde rapprochée d'ailleurs de l'apôtre Paul. Luc, c'est l'auteur de l'évangile de Luc, qui porte son nom, mais aussi du livre des Actes. C'est pas rien, hein. C'est un homme cultivé, d'ailleurs, son grec, il est d'une tellement grande qualité. Quand on lit aujourd'hui ce récit, on doit parfois s'accrocher, en tout cas les exégètes qui réfléchissent au sens des mots. Et on voit que dans le récit des Actes et de Luc, parfois il passe du « il » au « nous ». Pourquoi ? Parce que pleinement, Luc, il est pleinement là, il est pleinement, il accompagne Paul. Il n'est pas simplement peut-être son médecin personnel, mais Paul, parce que Paul connaît des problèmes de santé, mais ce qui nous touche le plus, c'est que Paul écrit à la fin de sa vie, alors que beaucoup l'ont quitté, il écrit « Luc seul est avec moi ». Luc est quelqu'un de fidèle, de précieux. Quel témoignage ! C'est lui qui est toujours là quand il le faut, qui est fidèle jusqu'au bout. Luc n'est ni un apôtre, ni un pasteur, mais un médecin. Dieu se sert aussi de sa profession, de ses compétences et de sa présence. Encore une fois, chacun est présent, chacun a sa place dans l'équipe. Dieu utilise chacun pour avancer son royaume. Et par contraste, le 8e homme, vous l'avez vu, Démas. Là, je l'appelle le briseur de cœur. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces versets ? Paul ne dit presque rien. Et je crois que le silence est parlant. Il est noté, mais il n'y a rien d'autre. 3-5 ans plus tard, Paul va dire à Timothée, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu la lassitude du ministère, sur les routes, toujours, devoir compter ses sous, la peur, l'attrait du monde ? Le texte ne le dit pas. Mais une chose est certaine, au moment où Paul écrit ces différentes lettres, Démas a abandonné, a jeté l'éponge. C'est une ombre au tableau de cette belle équipe. Démas fait office d'avertissement. Un avertissement pour nous. Oui, il peut arriver que parmi nous, des gens qui sont fidèles, chrétiens, engagés, abandonnent. Et là, apparemment, Démas ne semble pas avoir abandonné simplement le ministère, il semble visiblement tout abandonner. Cela nous rappelle l'importance de la persévérance. Ce n'est pas parce qu'on est aujourd'hui des serviteurs peut-être zélés dans l'Église de Jésus-Christ qu'on doit se relâcher. Démas doit faire office d'avertissement. Il n'y a rien de plus décourageant de voir des bien-aimés qui lâchent Christ, qui lâchent la parole de Dieu pour vivre selon eux, pour leur vie. Alors nous, on n'a pas accès au cœur. Permettez-moi de partager simplement un témoignage. Je suis pasteur depuis quelques années maintenant, parmi vous. Et je crois que si j'ai tenu, à travers des joies, à travers les difficultés, à travers de mes erreurs, à travers parfois de mes péchés, de mes erreurs, de mes maladresses, de bien d'autres choses que j'ai dû me repentir, si j'ai pu tenir, c'est parce que Dieu a placé sur ma route des compagnons fidèles qui ont veillé. Des frères qui m'ont encouragé, des frères qui ont prié, des frères qui ont parfois repris, qui m'ont repris, qui m'ont aidé à continuer d'occuper mon mètre carré. Sans eux, peut-être, je ne serais pas là. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous si on doit réaliser ce besoin fidèle des uns et des autres. On a besoin tous d'être un ami pour quelqu'un. Et on a tous besoin de quelques amis qui nous rapprochent du Seigneur. On n'a pas besoin d'une centaine de relations, mais de 2 ou 3 personnes qui vont prendre soin de vous, qui vont vous interpeller, qui vont vous faire grincer des dents peut-être, mais qui vont vous aider à marcher fidèlement et à regarder dans la bonne direction. Alors en regardant cette équipe, on voit bien sûr, Paul a eu un ministère, il n'était pas tout seul. En regardant cette photo de groupe, on ne voit pas simplement 8 personnes. On voit comment une église est appelée à servir fidèlement chacun son petit mètre carré. La fidélité, la grâce, le combat, la réconciliation, l'encouragement, la prière, la persévérance, l'avertissement. Donc là, on a vu l'équipe. J'aimerais simplement encore, plus courtement, regarder un deuxième aspect ici. Parce qu'on n'a pas simplement une belle équipe en ordre de marche. On voit tout un tas d'éléments qui nous présentent une stratégie, une dynamique commune. Et le deuxième point, je l'ai appris, on a une équipe au service de l'Évangile. Là, on a une dynamique au service de l'Évangile. Alors, qu'est-ce qu'on découvre en prenant du recul ? On n'a pas simplement une belle photo de groupe, hein. On y découvre une manière de vivre l'Église. Une dynamique au service de l'Évangile. Et ma première question, c'est qui accompagne toutes les applications que j'ai déjà laissées, hein. Est-ce que vous êtes reconnu dans l'un des portraits ? Peut-être vous êtes un Tichic, fidèle dans le service. Peut-être vous êtes un Onésime, transformé par la grâce. Peut-être vous êtes un Justus, discret mais encourageant. Peut-être vous êtes un Épaphras qui aime prier. Peut-être un Marc que Dieu a relevé après un échec. En fait, peu importe qui vous êtes. Mais ce qui compte, c'est que chacun ait sa place. Chacun ait son mètre carré. Dieu ne demande pas à chacun de tout faire. Il demande à chacun d'être fidèle au mètre carré qu'il nous confie. Et c'est là que commence la vie de l'Église. Que chacun s'investit dans ses relations, qu'il cherche à servir les autres, qu'il mette son don au service des autres. Là, je dis rien de nouveau, hein. Mais en regardant cette équipe, on découvre une vraie stratégie aussi. Paul qui conduit l'équipe, mais c'est pas une pyramide. On voit qu'il fait confiance. On voit qu'il délègue. On voit qu'il forme. On voit qu'il accompagne. On voit qu'il envoie des collaborateur expérimenté comme Tychique, on voit qu'il entoure des plus jeunes comme Onésime, afin de démontrer leur crédibilité. Chacun reçoit des responsabilités adaptées à sa maturité. Et personne d'ailleurs n'est lancé trop vite. Si vous regardez, on ne dit pas pour Onésime la même chose qu'on dit à Tychique. Il y a ce principe de Timothée, hein, où Paul dira « on ne confie pas un ministère à la légère ». Mais si on poursuit la lecture à partir du verset 15, on découvre bien d'autres personnes. Et là, on arrive à Colosse. Et on découvre d'un coup Nymphas, une personne qui ouvre sa maison pour accueillir l'Église. Alors, on ne sait pas grand-chose de cette personne, si c'est d'ailleurs il ou elle. Bah, les commentateurs se battent à ce sujet. Beaucoup disent que c'est une femme, on ne le sait pas. Mais une chose est certaine, dans le texte, Dieu honore son hospitalité. Sans grand discours, de manière très visible, elle ouvre sa maison et elle permet à toute l'Église de se retrouver ensemble chez elle. Voilà un beau mètre carré, comme on dit, utile à l'œuvre du Seigneur. Partager un repas, accueillir un groupe de maison, un binôme ou un trinôme de prière, offrir de l'amour, de l'hospitalité, de l'encouragement. Ça, c'est une façon très concrète, très intentionnelle d'être une Église en action. Et puis, il y a Archip, plus loin dans le texte. Paul lui adresse une exhortation. « Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir. » Est-ce qu'il était le pasteur en charge en attendant le retour d'Épaphras? Est-ce qu'il était un évangéliste? Est-ce qu'il était un missionnaire? Est-ce qu'il était un ancien? Est-ce qu'il était autre chose? On ne le sait pas. Quelle que soit sa fonction, quel que soit son don, il y a cette exhortation « Prends soin de ton service, prends soin de ton mètre carré. » Et cette parole n'est pas que pour Archip. Quel est le ministère que Dieu vous a confié? Quel est le don que Dieu vous a donné? Peut-être vous êtes parent de jeunes enfants. Quel beau mètre carré. Peut-être vous êtes jeune et célibataire, fidèle à nouer des relations partout, à encourager, à aimer le Seigneur, à le servir dans l'Église. Quel beau mètre carré. Peut-être vous travaillez dans une entreprise. Quel beau mètre carré où Dieu veut vous utiliser. Peut-être vous accueillez un groupe de maison. Peut-être vous enseignez les enfants. Peut-être vous prenez simplement du temps cet été pour faire un camp, une colo. Quel beau mètre carré de s'impliquer dans des camps. Au fond, la question n'est pas quel est ton ministère, mais la question est-ce que tu prends soin de celui que Dieu t'a confié? Prends garde au ministère que Dieu t'a donné. Mais là, il y a encore toute une autre dimension. Alors, je vous ai ouvert tout à l'heure une parenthèse. Les églises de Colosse, de Laodicée, d'Hierapolis ne vivent pas chacun dans leur coin. Elles collaborent. On voit que les salutations circulent, les lettres circulent, les encouragements circulent, les personnes de Dieu circulent, la parole de Dieu circule. Autrement dit, ces églises vivent en réseau. Alors, on s'encourage en ce moment dans nos églises à vivre en réseau. Et je trouve cela remarquable que la parole de Dieu le souligne. Cette lettre n'est pas destinée de Colosse à rester sur l'étagère, elle devait être lue ailleurs. On le dit dans notre texte, hein, c'est notre texte qui le dit. Elle devait être partagée, elle devait être transmise. Et près de 2000 ans plus tard, nous l'avons. Elle est arrivée jusqu'à nous pour nous encourager aussi. C'est là le travail en réseau. Dieu s'est servi d'une multitude de chrétiens, connus, inconnus, pour transmettre sa parole fidèlement. Et c'est encore Dieu qui nous parle à travers de cette lettre. Alors je termine un peu avec cette réflexion-là que je lance. Hein. Quelle dynamique pour notre église de Wittenheim. Alors déjà, cette vision commune qu'on retrouve dans Colossiens, faire connaître Christ et sa pleine suffisance, et s'en réjouir, annoncer qu'on a tout en lui. Ensuite, vivre une complémentarité, ne pas être simplement des collègues de service, mais être des frères et sœurs qui travaillent, s'aiment, prient, luttent, souffrent, se réjouissent ensemble. Et enfin, de regarder plus loin que nous-mêmes. Alors, je crois que c'est une conviction dans notre Église, et je le dis régulièrement, hein. On fait partie d'un réseau d'Églises, les CAEF, le réseau FEF. C'est un réseau, c'est une énergie, une synergie. On collabore avec d'autres œuvres, on encourage à la formation avec d'autres organismes. On souhaite soutenir l'implantation, je vous en parlais il n'y a pas si longtemps. On souhaite développer le soutien d'autres ministères. Et je crois que c'est une dynamique dans laquelle on doit la cultiver et la vivre en Église. Une église en bonne santé, et c'est ce qu'on aimerait être. Une église en bonne santé ne pense pas simplement à elle-même, elle cherche à bénir d'autres églises, même si c'est envoyer un Épaphrodite à 1500 km. et à perdre son ministère parmi nous. On cherche à bénir d'autres églises, à partager nos ressources, à envoyer, à former, à encourager. Et c'est ce que nous voulons vivre ensemble et c'est ce que nous voyons ici dans cette conclusion. Alors ma prière en refermant cette lettre de Colossiens, elle est toute simple. Que Dieu fasse de nous une église où chacun occupe fidèlement le mètre carré que Dieu nous confie. Une église où on prie les uns pour les autres. Une église qui forme de nouveaux ouvriers. Une église qui regarde plus loin que ses propres murs, même si on va réfléchir à nos murs. Une église qui aime profondément Jésus-Christ et qui donne envie à d'autres de le connaître. Parce qu'au fond, c'est ça qui unissait ces hommes sur cette photo. C'est Tichic, c'est Paul, c'est Onésime, c'est Marc, c'est Epaphras, c'est Luc et tous les autres. Ils étaient différents, ils avaient des histoires différentes, des dons différents, mais ils avaient la même passion, faire connaître Christ. C'est notre slogan d'église. Alors que Dieu nous donne, à notre tour, d'œuvrer, de servir, d'aimer ensemble et d'être nous aussi de ces bien-aimés fidèles pour l'Évangile. Car aujourd'hui encore, on a tout pleinement en Christ. Je vais prier.